À la une de l'actualité ce soir, cette question, qui pour intégrer l'équipe gouvernementale du nouveau Premier ministre? Michel Barnier donne des indications, mais pas de nom pour l'instant. Celui du sénateur LR Bruno Retailleau circule avec insistance. Michel Barnier, Premier ministre, et une première manifestation. Elle est prévue demain dans plusieurs villes de France. La France insoumise entend dénoncer un coup de force du chef de l'État. La journée porte ouverte à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'était aujourd'hui à Nouville et simultanément à Conay. Elle s'adresse principalement aux futurs bacheliers. Elle a réuni près de 3000 visiteurs. L'actualité sportive, c'est du rugby avec la reprise du championnat de France élite. C'est ce soir avec 5 matchs à suivre ce dimanche pour lancer le top 14. Et puis en football, mauvaise entrée en matière pour l'équipe de France battue par l'Italie 3 buts à 1 en Ligue des Nations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Info Weekend. L'équation n'est certes pas simple à résoudre. Tout juste nommé à Matignon, Michel Barnier devra composer son gouvernement et éviter une motion de censure à l'Assemblée qui sera votée sans nul doute par le nouveau Front Populaire, excepté certaines figures du Parti Socialiste qui restent plus prudentes sur le sujet. Du côté de Gabriel Attal, devenu chef de file des macronistes à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de volonté de blocage, a-t-il dit, ni de soutien inconditionnel au Premier ministre. On jugera sur pièce, a dit en substance de son côté Marine Le Pen, alors que Michel Barnier a reçu hier soir pour nous les leaders de sa famille politique, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, dont le nom circule pour intégrer l'équipe gouvernementale, dit faire un choix de responsabilité.
Le choix que nous faisons, ça n'est pas le choix de la facilité, mais de la responsabilité. Hors de question de voir la France s'enfoncer, un pays qui est bloqué, une démocratie empêchée. Donc ce choix de la responsabilité a consisté à faire en sorte qu'on évite évidemment le pire. Le pire pour nous, c'était un gouvernement d'extrême gauche.
Le Premier ministre a également reçu le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale et doit recevoir également 3 de ses prédécesseurs à Matignon, dont Édouard Philippe, mais aussi Elisabeth Borne et Jean Castex. Quoi qu'il en soit, Michel Barnier devra donc donner des gages à droite et à gauche et il ne s'en est pas caché ce matin, invité du journal de 20h de TF1.
Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Je n'ai pas besoin de rappeler d'où je viens. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un républicain. Je suis européen aussi, mais pas n'importe quelle Europe, une Europe utile et concrète. Donc il y aura des gens de ma famille politique, il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, et puis je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez
des
quel est le critère, oui, des gens de gauche, je n'ai jamais été sectaire.
Équation difficile donc, mais Michel Barnier a également posé son intention vis-à-vis du président de la République. En résumé, ce n'est pas une cohabitation, mais chacun son rôle.
J'ai marqué beaucoup d'opposition à son égard dans le passé, même si j'ai dû voter plusieurs fois d'ailleurs volontairement et sans problème pour lui au deuxième tour. On s'est opposé, on n'a pas toujours eu les mêmes idées. Il est le président de la République et j'ai du respect pour la fonction et pour l'homme. Simplement, je dirais, pour résumer ma conviction et la manière dont je vais travailler, le président doit présider, le gouvernement doit gouverner.
Oui, Michel Barnier, qui à défaut d'avoir encore trouvé ses ministres, a choisi son directeur de cabinet. Il s'agit de Jérôme Fournel, au fonctionnaire de 57 ans, qui était jusqu'à aujourd'hui le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Le Premier ministre qui va devoir affronter demain sa première bronca dans la rue, à l'appel de la France insoumise, des manifestations sont en effet prévues un peu partout en France pour dénoncer un coup de force du chef de l'État. Des rassemblements qui, pour autant, ne devraient pas attirer les foules, William Molinier.
Oui, le renseignement territorial n'est pas inquiet. Une quarantaine de rassemblements devraient se tenir partout en France et rassembler en dehors de Paris entre 9000 et 11000 personnes, selon une projection des services de renseignement en début de semaine. La semaine dernière, quelques manifestations avaient mobilisé 430 personnes seulement sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les rassemblements les plus fédérateurs devraient se trouver à Lyon, Marseille, Toulouse, Angoulême et Lille. Dans la capitale, le cortège partira de Bastille pour rejoindre Nation. Quelques réseaux de l'ultra-gauche ont relayer ses appels à manifester. Si des violences ici et là ne sont pas à exclure, les militants radicaux comptent surtout se saisir de cette occasion pour dénoncer le pouvoir politique en place, en particulier la nomination de Michel Barnier à Matignon. En clair, ils comptent relancer la mobilisation politique après la pause estivale, mais ils ne peuvent pas compter sur la mobilisation de la jeunesse, puisque la rentrée universitaire n'aura pas encore eu lieu.
Les explications de William Molinier pour Europe 1. Michel Barnier, qui bénéficie a priori d'une cote de confiance moyenne dans l'opinion, selon un sondage CNews Europe 1 pour le journal du dimanche, avec 42% d'opinion favorable à son entrée en fonction. Il fait moins bien que Gabriel Attal, 48%, et Elisabeth Borne, qui bénéficiait de la confiance des Français pour 53%. Lorsqu'elle était arrivée à Matignon.
RRB 17h51.
Actualité en Nouvelle-Calédonie et 90 hectares partis en fumée dans l'incendie de Watom à la fois hier. Des maisons et la ferme photovoltaïque ont été un temps menacées, notamment en raison des vents forts sur zone qui ont compliqué le travail des pompiers. Heureusement, le feu a été maîtrisé hier en fin d'après-midi sans pour autant être éteint. Des risques persistaient aujourd'hui, nous a dit ce matin le capitaine Maël Kerleger, il est commandant des opérations de secours de la FOI.
Dans la nuit, on a des équipes qui sont restées dans la zone à surveiller. Le vent fort, il a continué jusqu'à tard hier soir. Donc on est resté en surveillance de ça et c'est même pas fini encore aujourd'hui. On continue la surveillance dans la zone. Le feu n'est pas éteint. On a encore des gros foyers en activité à l'intérieur même du sinistre. On a pu le maîtriser. Là, il se propage plus sur les lisières de l'incendie. Il n'y a plus de points chauds, mais on reste en surveillance et vigilant compte tenu des forts vents qui sont annoncés aujourd'hui. Qui commence déjà à se faire ressentir. Ah là, il faut des moyens qu'on n'aurait pas et même ça serait beaucoup d'énergie dépensée alors qu'on n'est même pas sûr de pouvoir éteindre complètement ces foyers-là.
Un peu moins d'une dizaine de véhicules de pompiers étaient engagés pour lutter contre cet incendie, dont 4 véhicules légers. Autre incendie à Nouméa, cette fois dans le quartier de Sainte-Marie ce matin. Il s'agissait d'un sinistre accidentel dans une maison à un étage. Le propriétaire effectuait des travaux de soudure lorsque le feu s'est déclaré et s'est rapidement propagé. Les pompiers ont maîtrisé le sinistre qui n'a fait aucun blessé. 17h52, dans un instant, l'actualité sur le territoire.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Gilles Ménage.
Et avec l'actualité sur le territoire, donc, et la journée porte ouverte à l'UNC, de nombreux lycéens, accompagnés de leurs familles, sont allés à la rencontre des étudiants. Une cinquantaine de formations que l'UNC a mis à l'honneur à l'occasion de ses portes ouvertes, Charlotte Coulson.
Oui, une journée qui vient remplacer le traditionnel Salon des études supérieures. Il se tient normalement en juillet, mais a été annulé cette année. De 9h à 15h aujourd'hui, les familles arpentaient la cour de l'université qui accueille de nombreux stands. Certains venaient avec une idée précise, d'autres découvraient les formations proposées. Toutes et tous sont repartis satisfaits des échanges avec les étudiants des différentes facultés.
On vient de remercier des personnes qui se sont occupées du salon parce que justement on a eu très peur qu'il n'y en ait pas et c'est vraiment super pour nos jeunes qui puissent venir rencontrer des interlocuteurs de la formation.
Alors oui, je suis parti plus sur un domaine scientifique, notamment en mathématiques et en physique. Je suis en train de voir si peut-être une formation avec de l'informatique pourrait m'intéresser. Ça m'aide clairement parce qu'on voit vraiment ce qui va nous attendre l'année prochaine. On sait ce qu'on va pouvoir faire et où est-ce que ça va nous mener à l'avenir après l'université. Et c'est vraiment pratique de pouvoir rencontrer des gens qui, eux, le vivent, des gens qui nous le présentent plutôt.
Oui, ça m'a beaucoup aidé par rapport au programme, à comment ça se déroule en classe.
Moi, j'avais pas trop d'idées au début, mais je trouve qu'ici, ils proposent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent, quoi.
Du coup, j'ai fait qu'un stand, celui qui me concernait au niveau du premier degré. Et ça m'a conforté sur mon choix. Du coup, je suis plus sûre de moi du métier que je veux faire plus tard.
Un événement important qui permet aux lycéens de construire leur parcours scolaire. Didier Vindatich, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, était également présent sur place. Il tenait à rappeler que la plateforme Parcoursup clôture bientôt sa campagne.
L'enjeu est tout à fait essentiel, hein, puisqu'il s'agit pour eux de construire leur parcours scolaire et universitaire. Et donc, il faut qu'ils se documentent pour pouvoir construire ce projet. Alors, bien sûr, il y a des événements calendaires importants. Hein, la fin de Parcoursup, bientôt. Donc, il faut que les étudiants aient bouclé leurs projets d'orientation qui vont être étudiés par les grandes écoles et les universités. C'est aussi un événement important parce que, en plus de ce salon, toute la semaine prochaine, il y a la semaine de l'orientation dans les établissements pour que les élèves puissent faire leurs choix et être éclairés sur les grands choix qu'ils ont à faire.
Et à la fin de cette journée, près de 3000 visiteurs ont été recensés. Un succès dont se réjouit Catherine Ries, présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Pour avoir échangé à la fois avec les collègues qui étaient en contact, des personnes qui sont venues chercher des informations et avec les personnes qui quittaient le campus, ils ont été ravis notamment de la qualité des réponses qui leur ont été apportées, de la précision des informations qu'ils ont eues, qu'ils n'avaient jamais eues par ailleurs. Donc au-delà du nombre, c'est aussi un moment d'échange de qualité qui permet de répondre de façon précise aux questions que se posent les lycéens sur leur orientation. Et puis ce qui était aussi, je pense, un beau succès, c'était les visites du campus qui permettaient de voir les différentes infrastructures sportives, la bibliothèque, les amphis, etc. Et ça a eu beaucoup de succès, ça aussi. Ça permet de se projeter dans l'environnement universitaire, d'avoir une représentation de ce que ça peut être.
Et les élèves ont eu jusqu'au 23 octobre pour postuler sur Parcoursup.
Une journée consacrée à la découverte des formations à Nouville, donc, mais pas que. Le campus de Bacco tenait aussi un stand en province nord. Ça se passait ce matin au centre Théhari à Conné, de 8h à 13h, là aussi. Les organisateurs sont satisfaits de la matinée, comme en témoigne Samuel Gorouna, le responsable du campus de Bacco.
Oui, on est très satisfait de ce format, dans la mesure où on est allé vers les personnes. Le fait de ne pas le faire au campus de Bacco, ça fait que les familles ne le visitent pas forcément en amont. Mais l'avantage de sortir du campus de Bacco, c'est qu'on rencontre des personnes et des familles qui n'avaient pas forcément non plus l'idée de se renseigner et qui, en voyant les stands, peuvent se renseigner les personnes de province nord, que ce soit de la côte ouest ou de la côte est. Et on a eu énormément de questions, que ce soit les formations à Bacco, mais également des formations de Nouville, des questions qui ont été posées. Et puis évidemment, les autres post-bac dans les lycées, et du coup, le CIO était présent pour y répondre.
Et pour rappel, le campus de Bacco accueille plusieurs formations, dont une licence économie-gestion, ainsi que deux diplômes universitaires. Dans l'actualité festive, c'était le jour du loto annuel de l'ACAPA. Il est organisé, bien sûr, par l'association d'aide aux personnes âgées, Michael Juneski.
Un rendez-vous habituellement très suivi dans les locaux de l'association au Faubourg Blanchot. Mais ce n'était pas la foule des grands jours ce samedi, étant donné le contexte. Toutefois, ceux qui ont participé au bingo ont apprécié, à l'image de Toto qui a remporté une partie.
67
29. On est bien content parce qu'on reste souvent enfermé à la maison, alors donc ça fait du bien. Quoi.
Et en plus, gagnant aujourd'hui.
Oui, ben voilà, c'est bon. Ben voilà, c'est pour faire plaisir aussi aux anciens. Moi, j'en fais partie aussi, moi. Enfin, on verra ça plus tard.
Évidemment, si la bonne humeur des membres de l'ACAPA était au beau fixe, la présidente Liliane Condoumi ne cache pas ses craintes pour le futur de l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées.
Le loto, c'est pas ce qu'on escomptait, mais bon, c'est un petit loto qu'on a fait en plus, puisqu'on avait un vide-grenier ce matin. Donc le vide-grenier, ça a marché entre les deux. Bah, le loto, on n'a pas trop de monde non plus. Bah, ça sera toujours ça. On vit au jour le jour et on ne peut pas faire de projet puisqu'on n'a plus de... Les subventions sont zéro. Donc on espère quand même qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'année et puis après, bah, on verra.
Une journée qui n'a pas eu le succès voulu, mais l'ACAPA espère tout de même récolter de quoi tenir encore quelques mois pour ses bénévoles et les personnes âgées dans le besoin.
Et à Dimbéa, pendant ce temps, Mickaël, des activités pour la jeunesse étaient à l'honneur, c'était à Coutio.
Le premier rendez-vous du samedi au Big Up Spot. Le principe est simple, des activités pour les plus jeunes, que ce soit sportives ou ludiques. La boxe a évidemment attiré des graines de champions qui souhaitaient enfiler les gants.
Bah, j'ai déjà essayé, moi j'ai déjà 4 ans.
Alors t'aimes bien la boxe?
Oui, bah, je veux faire encore.
Oui, c'est bien, ça change un peu.
J'ai bien aimé, la boxe c'est bien. Et parfois quand on est en colère, ça nous défoule de faire de la boxe. Ça change, c'est original.
Merci. Et des initiations à des pratiques variées et le tout gratuit pour les enfants. Emmanuel Aubinet, chef de la cellule création et diffusion artistique et culturelle pour la ville de Dimbéa.
Nous accueillons des prestataires pour proposer un grand panel d'activités pour les enfants de 7 ans à adolescents. Donc aujourd'hui nous avons Ludic NC qui est présent, le Boxing Club de Dimbéa qui est présent et la Ligue d'échecs de Dimbéa qui est présent également pour offrir des jeux et des initiations à tous les enfants. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, donc c'est un premier samedi sous le soleil et avec une bonne participation. Donc on est content et on attend la suite.
La municipalité organise déjà des rendez-vous tous les mardis, mercredis et jeudis pour la jeunesse. Ce sera désormais également le cas tous les samedis jusqu'à 17h au Big Up Spot de Couthiot.
À Nouméa, pendant ce temps, l'Art Factory accueille le grand public aujourd'hui et demain pour le rendez-vous Art and Food Market. Des produits variés sont à découvrir. Bijoux, épicerie fine, mode artisanat et bien d'autres, le tout dans un cadre sur mesure face au Kefferi et accompagné de concerts, de défilés et d'expositions. Une quarantaine d'exposants sont sur place, heureux de participer à cette première édition.
Nous, c'est l'entreprise Pacifique Fumoir, spécialisée dans le fumage des produits de la mer. Donc nous, à la vente, aujourd'hui, on va avoir du marlin fumé, on va avoir du poulpe fumé, des crevettes fumées, une planche de dégustation découverte. Donc dedans, on va avoir du marlin fumé sur un pain de seigle noir avec du miel au zeste de citron. On va avoir également dedans donc des crevettes fumées et une petite brochette de poulpe fumée.
Une satisfaction de pouvoir être présent pour ce rendez-vous.
Pour nous, c'est une première à l'Art Factory parce que c'est quand même un bel endroit et nous, ça nous fait plaisir d'y participer.
Moi, c'est Camille, je suis le gérant de la bijouterie Amoretti en centre-ville. Ça peut faire découvrir notre magasin par une autre clientèle, par exemple, et puis, pour des curieux.
Moi, c'est Céline, c'est les Jardins du Cap. Alors nous, on transforme les produits de notre jardin. Donc on fait des confitures, achats, sirop, miel. Et il y a une partie cosmétiques et savons aussi où on utilise des produits de notre jardin. Vu la situation en ce moment, eh ben, on essaye de faire un maximum. Quoi.
Moi, c'est Muriel de la boutique LM au quartier latin. Donc moi, je m'occupe en fait des arts de la table, du linge de maison, des cadeaux et de la déco. Et donc, je suis venue aujourd'hui proposer aussi des prix salons et des prix soldes, des belles choses. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. En ce moment, on en a particulièrement besoin. C'est un petit coup de pouce aussi, je dirais, pour le commerce. On souffre quand même beaucoup. L'activité est quand même très réduite, ce qui est bien logique. D'où aussi les petits prix que tout le monde propose ici sur ce salon. Et puis, j'avoue que Pacific Fair organise toujours très bien ces salons. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai souhaité répondre, parce que je savais que la clientèle serait au rendez-vous. Et le cadre, en plus, est exceptionnel.
Voilà des propos recueillis par Mickaël Juneski. Le rendez-vous Art and Food Market, c'est aujourd'hui jusqu'à encore 19h ce soir et demain toute la journée de 10h à 19h. Direction la mairie de Farino à présent. Elle accueillera comme chaque deuxième dimanche du mois le marché de Farino, le marché de Mamie qui sera pour ce dimanche un spécial verre de Bancoul avec une dégustation à 11h de verre cru et cuit façon Mamie Fogliani avec une animation musicale. Écoutez les précisions de Ghislaine Arly, la responsable du marché de Mamie.
Ce dimanche, donc, on sort nos verres. Comme on ne peut pas faire le grand marché habituel avec les jeux et animations de fouillage et de bouffage, on va quand même faire de la dégustation. Et puis, disons que nous allons mettre des troncs sur le côté et les gens pourront goûter le verre cru aussi. Et cette dégustation, comme d'habitude, c'est les recettes de Mamie Fogliani au beurre maître d'hôtel et puis sauter au pastis, flamber au pastis. Voilà. Donc ça, ce sera pour la dégustation. Sur beaucoup de stands, vous allez trouver des verres. Et il y aura même, alors là c'est un scoop, il y aura même des achats au verre de Bancoul. Alors il faut goûter ça. Donc vraiment, voilà, on va essayer de faire de cette fête un peu plus que le marché habituel, quoi, disons, pour célébrer ce verre de Bancoul.
Voilà, le marché de Mamie, c'est demain de 8h à midi sur le parvis de la mairie de Farino. Un marché, vous l'avez compris, spécial verre de Bancoul.
RRB 18h03.
L'actualité dans la région Pacifique. Le pape François est en visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a appelé ses dirigeants à arrêter la spirale des violences tribales ancestrales. Le souverain pontife est arrivé vendredi soir pour une visite de 3 jours dans ce pays multiethnique à majorité chrétienne. Ces violences ne permettent pas de vivre en paix et entravent le développement, a lancé le pape François, alors que ces affrontements qui persistent depuis des siècles ont gagné en intensité ces dernières années. En métropole, la Fondation Abbé Pierre va changer de nom, annonce faite la nuit dernière pour nous après 17 nouveaux témoignages accusant le prêtre de violences sexuelles. Pour rappel, l'abbé Pierre est visé par 24 accusations du même type, des faits qui se seraient produits entre les années 50 et les années 2000, et certains auraient été commis sur des mineurs. La conférence des évêques de France a dit ce matin son horreur face à la multiplication de ces témoignages. Aux États-Unis, pendant ce temps, une bonne nouvelle pour Donald Trump, puisque l'annonce de sa peine dans son procès pénal est repoussée au 23 novembre, c'est-à-dire 3 semaines après les élections présidentielles américaines. En mai dernier, un jury l'avait reconnu coupable à l'unanimité de paiements dissimulés à la star du porno Stormy Daniels en 2016. Mais une fois de plus, il a donc réussi à repousser l'échéance. Toutefois, ses nombreuses affaires judiciaires devraient peser dans la dernière partie de la campagne. Anne Toulouse pour Europe 1.
C'est une situation unique dans l'histoire de notre pays, a déclaré le juge. Il s'est rendu à l'argument qu'une sentence pouvant impliquer une peine de prison serait de nature à influencer une élection qui aura lieu quelques semaines plus tard. Mais quand cette sentence interviendra le 26 novembre, il y aura la possibilité qu'elle frappe un président élu, ce dont on ne connaît pas les conséquences. Les avocats de Donald Trump ont réussi à repousser la conclusion de ces multiples affaires judiciaires jusqu'à l'année prochaine, où leur sort dépendra du résultat du scrutin. La Cour suprême les a grandement aidés en statuant, il y a 2 mois, qu'un président bénéficiait d'une immunité pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cela aurait dû éteindre les poursuites pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier 2020, si le procureur ne les avait requalifiés en arguant qu'il avait agi en candidat et non en président. Qu'il ait reçu sa peine ou non, Donald Trump reste le premier président américain condamné au pénal, ce qui ne manquera pas d'être évoqué mardi dans son premier face-à-face avec Kamala Harris, une ancienne procureuse.
Les explications d'Anne Toulouse, la correspondante d'Europe 1 à Washington. 18h08, dans un instant, l'actualité sportive.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main. Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Gilles Ménage.
À la une de l'actualité sportive ce soir, Michael Juneski du rugby. Les fans d'Ovalie vont être servis. C'est ce week-end la reprise du top 14.
Et ça redémarre dès ce soir. L'élite du rugby national avec tout d'abord un derby Bayonne-Perpignan pour ouvrir le bal à 23h30. Ce sera suivi de Clermont-Section Paloise, de Montpellier-Lyon et de Castres-Racing 92 avec Romain Taoufé-Fénois, le Calédonien désormais sous les couleurs parisiennes. Toutes ces rencontres à suivre à partir d'1h30 du matin. Et puis, à 6h ce dimanche, l'UBB avec dans ses rangs Yoram Moefana, le fils de Taoufé-Fénois Falatea, président du club de Dimbéa, accueillera le Stade français. J'ajoute que lundi matin, on aura droit déjà une confrontation La Rochelle-RC Tounon avant l'entrée en lice de Vannes, les Bretons promus en top 14 cette année. Ce sera face au tenant du titre, le Stade toulousain. Et puis, pour les amoureux d'Ovalie encore, ce soir et demain matin dans les Hémisphère Sud, c'est la 4e journée du Rugby Championship avec Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Encore une confrontation au sommet entre les Springboks et les All Blacks à suivre à partir de 2h du matin. Et demain, les Pumas argentins retrouveront les Wallabies australiens. Un match à suivre à partir de 6h.
Du football avec l'équipe de France qui commence la Ligue des Nations par une défaite contre l'Italie.
Oui, on retrouvait les Bleus dans cette nouvelle compétition face à la Squadra Azzurra. L'ouverture du score après 12 secondes de match signé Barcola donnait le sourire aux supporters français. Mais Mbappé et ses coéquipiers se sont retrouvés ensuite incapables de tenir la cadence contre les Italiens. Ils s'inclinent donc sur le score de 3-1. C'est une déception pour le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Mis à part les 20 premières minutes, et après on était un peu entre deux, entre des joueurs qui sont positionnés haut et trop d'espace. Donc à partir de là, avec des bons joueurs en face, évidemment des erreurs de notre part, mais ça fait mal, mais il faut pas fuir, c'est ma responsabilité, ça l'a toujours été. Il faut être factuel, avec tout le potentiel qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on a eu des manques, on est en dessous par rapport à notre adversaire.
Les Bleus qui retrouveront dès mardi matin l'équipe de Belgique pour la deuxième journée du groupe 2. Les Belges ont pour leur part corrigé aujourd'hui Israël sur le score de 3-1. Demain, il y aura encore de belles affiches. Allemagne-Hongrie, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'un Irlande-Angleterre à suivre cette fois dans la Ligue B.
On passe au tennis, Mickaël, avec la suite de l'US Open.
Et on connaît l'affiche chez les messieurs pour la finale. L'Italien Yannick Sinner qui fait figure de favori après avoir écarté le Britannique Jack Draper, 7-5, 7-6, 6-2. Il affrontera l'Américain Taylor Fritz qui a dû s'employer pour éliminer son compatriote Frances Tiafoe, 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Chez les féminines, la finale en simple se disputera demain entre l'Américaine Jessica Pegula et la Bélorusse Arina Sabalenka.
En cyclisme, Primoz Roglic pourrait s'imposer sur le Tour d'Espagne.
En tout cas, le Slovène a remporté la 19e étape de la Vuelta hier soir et donc a réalisé une bonne opération au classement général puisqu'il a pris le maillot rouge de leader à Ben O'Connor à deux jours de l'arrivée. Roglic a creusé un écart d'une minute 54 secondes sur l'Australien. Le meilleur français au classement général pour le moment, c'est David Gaudu. Il est en 5e position. La 20e et avant-dernière étape sera à suivre à partir de 22h ce soir.
Les sports mécaniques avec la suite des championnats du monde de rallye et de MotoGP.
En MotoGP, c'est le Grand Prix de Saint-Marin qui est au programme ce week-end. L'Italien Francesco Bagnaia a dominé les essais libres. Meilleur chrono pour le pilote Ducati devant Marc Marquez et Jorge Martin. Fabio Quartararo s'est classé 9e. Il sera directement qualifié pour la Q2 ce soir. L'autre français, Joan Zarco, devra passer par les repêchages. Il a réalisé le 15e temps de ses essais libres.
Allez, on prend la direction de Paris pour la suite des Jeux Paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et à deux jours de la fin des Jeux, le camp français figure désormais au 6e rang du classement des médailles.
Ah oui, alors qu'on approche donc du grand dénouement de ces Jeux de Paris 2024, le clan tricolore pour cette Olympiade paralympique totalise 65 médailles, 17 en or, 24 en argent et 24 en bronze pour les Bleus. La Chine est toujours en tête de ce classement avec déjà 188 médailles, 83 en or devant le Royaume-Uni qui est 3e pour 42 titres sur 100 podiums. Le Royaume-Uni, 2e, pardon, les États-Unis, 3e. Aujourd'hui, on rappelle que les Bleus ont tout de même décroché 4 nouvelles médailles, 3 en cyclisme sur route, 2 médailles d'argent ainsi qu'une médaille de bronze. Et puis, une dernière médaille de bronze venue de la paranatation avec Emeline Pierre sur le 100 mètres d'eau S10. Notez qu'on retrouvera demain matin l'équipe de France de Cécifoot en finale et ce sera pour nous rappeler des souvenirs face à la sélection argent. Et puis, je rappelle également que côté calédonien, Vittorio Cavacava n'a pas réussi à monter sur le podium du lancer de poids, mais il a réalisé tout de même sa meilleure performance de la saison, 12,99 m ce matin, devant 65 000 personnes au Stade de France. Il s'est classé à la 6e place du concours, lui qui, à 24 ans, se focalise déjà sur les Jeux de Los Angeles 2028. Son record personnel est toujours de 13,32 m. On rappelle que 3 calédoniens était en lice dans ces Jeux paralympiques, donc Vittorio Cavacava, mais aussi Pierre Ferbanque et Félicien Sciappo.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le sport en Calédonie, à présent du football avec un premier match de préparation pour la sélection A.
Dans les conditions complexes qu'on connaît, l'équipe de Calédonie a débuté un cycle inédit pour les éliminatoires du Mondial avec une confrontation cet après-midi face à la formation de Tiga. Tiga, bien sûr, sans ses joueurs évoluant en sélection. Les Cagous se sont imposés 2-1 à Noumadele, un match qui permettait surtout de relancer la machine pour certains joueurs n'ayant plus joué depuis plusieurs mois. D'ailleurs, les sélectionnés pourraient se sentir menacés par des joueurs de Tiga qui ont tout donné pour ce match et qui peuvent encore prétendre à un poste avec l'équipe A. La sélection retrouvera dès samedi prochain le club de Magenta, des matchs qui se déroulent toujours à huis clos.
En revanche, pas de reprise aujourd'hui pour le VAA. La compétition qui devait se dérouler n'a pas pu avoir lieu.
On est d'abord annoncé, le championnat de Calédonie longue distance V1 n'a finalement pas eu lieu en cause les restrictions en vigueur pour tout rassemblement sur la voie publique. L'épreuve devait conduire près de 90 participants dans des courses au large de Nouméa, quasiment 4 mois après le dernier rendez-vous du VAA. Les courses donc annulées, les pratiquants subissent cette frustration, les rameurs attendent toujours avec impatience la reprise des compétitions. Écoutez Albert Minguet, l'un de nos champions du club Geffroy Sport.
Il y a une bonne reprise au niveau des pratiquants du VAA depuis après les émeutes là. On a pu constater que beaucoup de monde était revenu dans le sport, donc je félicite tout le monde, car avec tout ce qui se passe, c'est vraiment difficile la vie actuelle. Là, le sport, ça nous permet de voir autre chose et de penser à autre chose. Conditions météorologiques au top aujourd'hui, normalement pour cette compétition qui aurait dû avoir lieu. Beaucoup de découragement au niveau des rameurs parce qu'ils attendaient cette compétition vraiment sur le coup, quoi. Malheureusement, on n'a pas de compétition et on ne sait pas quand les compétitions vont reprendre sur le territoire. On a beaucoup de jeunes aussi qui reviennent pour s'entraîner. Les parents et puis les oncles, tout ça, ils amènent la jeunesse. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les 80 personnes, ils sont chacun dans leur club pour s'entraîner. Bon, après, c'est comme ça et puis on attend le jour J, quoi.
Et les Calédoniens ont déjà dû faire l'impasse sur les mondiaux de la discipline. Un seul représentant était sur place au mois d'août, alors que la crise a contraint la majorité des clubs et des pratiquants à annuler ce qui aurait dû être l'un des moments forts de la saison face aux meilleurs rameurs internationaux à Hawaï.
Merci Mickaël Genieski. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous écoute pour les détails, Maxime.
Exactement. Alors, bonsoir à tous. Et bien, pas de vigilance particulière. Tout d'abord, pour cette nuit sur l'ouest, le ciel sera bien étoilé. Sur les autres régions, des plaques de nuages bas se formeront. Sur la façade est, ils pourront donner une petite averse en fin de nuit. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, localement sur la pointe nord-est autour des 20 nœuds avec rafale à 30 nœuds. Et il faiblira sur l'ouest autour des 10 nœuds seulement en cours de nuit. Les températures minimales de ce soir seront en légère hausse avec 13 à 21 degrés. Demain matin, peu de changements. Sur l'ouest, le soleil restera au programme. Sur les autres régions, les plaques de nuages bas perturberont l'ensoleillement. Quelques averses seront attendues sur l'est en début de journée. L'alizée d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds, localement 20 à 25 nœuds sur le nord-est, avec quelques rafales proches des 35 nœuds quand même. Et enfin, le vent se renforcera rapidement sur la côte ouest.